It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi kobena.
It's okay, you know, it's okay.
On a prié en cœur,
oh yes,
pour avoir du dollar,
oh yes,
on a prié en cœur,
oh yes,
pour avoir des millions d'or,
oh yes,
on a prié en cœur. Répondez-nous, Seigneur, le sireur de Broadway,
oh yeah,
qui voudrait voyager,
oh yeah,
le marin sur la mer,
oh yeah,
qui veut revoir la terre,
oh yeah,
à prier de tout cœur. Répondez-lui, Seigneur, ici chacun de nous attend beaucoup de vous. Il attend que se réalisent les rêves, même un peu fous. Devant la vie si belle, on attend tout du ciel. Le plus mauvais de nous ici, humblement se met un jour à vos genoux. On a prié en cœur,
oh yeah,
pour danser le twist,
oh yeah.
On a prié en cœur,
oh yeah,
pour vivre mieux sa vie,
oh yeah.
On a prié en cœur. Répondez-nous, Seigneur.
Babaloubaloubala.
Détrompez-vous, le jeune chanteur qui vient d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires n'est pas un membre des Chaussettes Noires ou des Chats Sauvages. Non, ce twist est l'œuvre d'un certain Manu Dibango que nous avons le bonheur d'accueillir à nouveau dans cette émission. Soyez le bienvenu.
Merci, bonjour. Ça va ?
Ça va très bien, et vous ?
Ah, ben ça fait drôle de se réécouter, je ne sais pas combien d'années après. En tout cas, ça a été fait au début des indépendances.
Exactement. Ce que nous venons d'entendre date de 1963.
Ouais.
C'est un extrait d'une anthologie intitulée Merci, Thank You, qui réunit en 5 CD l'essentiel de votre répertoire des années 60 aux années 80, et qui va nous permettre de donner un nouvel éclairage à certaines œuvres mésestimées ou croquignolesques que l'on découvre ou redécouvre dans ce coffret imposant. Alors commençons par ce Répondez-nous Seigneur que nous venons d'entendre. Ce n'est pas un titre si anecdotique que cela, et le fait qu'il ouvre le volume 1 de cette rétrospective n'est pas anodin. Quel sens ou quelle lecture historique vous donnez à ce titre-là ?
Il y a plusieurs. Il y a les paroles déjà. Hein. Donc, ça a été composé par Jean Renard. Jean Renard qui, par la suite d'ailleurs, a composé pour tout le monde « Laisse-moi t'aimer » et tout ça. En fait, il était très prolifique. Et le côté religieux des paroles, hein, on a prié en cœur, ça veut dire beaucoup de choses. C'est John Williams, d'ailleurs, le regretté John Williams, qui faisait le tour des églises en France et que j'aimais beaucoup. Ça vient de là déjà. Hein. J'ai découvert cette chanson à travers un disque, une version de John Williams qui est décédé maintenant. Puis j'avais un club à Douala qui s'appelait le Tam Tam. Et l'orchestre qu'on entend derrière, c'est l'orchestre avec lequel je joue au Tam Tam. Donc il y a une unité dans l'orchestre, ce n'est pas des musiciens réunis pour une séance. C'était à la radio, Douala, il n'y avait pas encore de studio. En fait, vraiment, c'est la bande son des indépendants jusqu'aux années 80, quoi, d'une certaine Afrique.
Pour moi, ce titre traduit votre immersion progressive dans le paysage musical des années 60 en France, où la vague yéyé était très en vogue à l'époque.
Mais j'en faisais partie, puisque je suis parti de France pour aller en Belgique, de Belgique, je suis allé en Afrique. Et je dois te dire que c'était tout à fait normal à l'époque de pouvoir jouer ces morceaux-là. D'abord parce qu'on les dansait. Bon. Et puis, il n'y avait pas encore de twist africain. Donc, moi, j'ai dit, tiens, je vais en composer. Ou bien, je vais prendre des morceaux et je vais les jouer en twist. Hein, j'aurais pu jouer ça en jazz, j'aurais pu jouer ça en yéyé. Tout était permis à cette époque-là.
Il n'y avait pas de chapelle à l'époque.
Non, on n'était pas encore dans les Afriques. On était encore dans une Afrique.
Manu Dibango, nous allons survoler votre immense épopée en écoutant plusieurs extraits de ce coffret Merci, Thank You. Et nous allons continuer avec La Coupe des Tropiques. Est-ce que vous pouvez nous replacer ce titre dans son contexte historique pour nos auditeurs les plus jeunes ?
Oui, donc l'Afrique venait d'être indépendante, c'était 4 ans après les indépendances. Il y a donc une coupe déjà, le football, préoccupait et occupait les gens de cette génération-là. Donc là, pareil, c'était, on m'avait commandé un morceau pour illustrer la Coupe des Tropiques d'Afrique. À ce moment-là, on n'était pas encore 50 combien, voilà, il y avait peut-être 10 pays. Et ça se passait à Yaoundé. En une semaine, donc, d'où j'ai fait du journalisme, tout simplement en citant les pays qui ont participé, avec un rythme qui nous était familier, qui s'appelle le high life, tout simplement, parce que tu sais, au Cameroun, on est voisin du Nigeria, au Nigeria, il y a beaucoup de high life avant l'afrobeat de Fela, et nous, on appelle ça abélé chez nous, donc c'est un rythme courant en Afrique centrale, voilà, donc j'ai fait une Coupe des Tropiques. Alors, 7 ou 8 ans avant la 8e Coupe, avec la face B, là.
On va y revenir tout à l'heure. La Coupe des Tropiques, donc, Manu Dibango en 64. Je pensais que c'était une rumba ou un cha-cha-cha, vous me précisez bien.
C'est du high life. Life, ouais.
C'est du high life.
Flotté drapeau sur Yaoundé pour la Coupe des Tropiques. Flotté, oui. Flotter joyeux pour nos dieux du stade. Pendant 10 jours, le sport est roi dans notre chère capitale. Pour nos sportifs, oui, pour notre Afrique, vive la Coupe des Tropiques. À l'avant.
Quelle archive! La Coupe des Tropiques, Manu Dibango en 1964. Quelques années plus tard, vous le disiez, vous signerez également l'hymne de la 8e Coupe d'Afrique des Nations. Et en face B de ce 45 tours légendaire, le fameux Saul Makossa qui deviendra.
Voilà, j'étais un spécialiste, moi, du football musical.
Là, je vois ça. Et ben, puisqu'on parle de sport, je rappelle que vous serez cet été au JO. Aux ouais. Jeux Olympiques de Rio, en qualité de grand témoin de la francophonie. Quel sera votre rôle ou votre mission, monsieur l'ambassadeur ?
Veillez déjà à ce que la langue française soit présente. Quand ils ont fait la charte, donc, il était prévu qu'il y aurait 2 langues. Alors, des fois, on a tendance à aller beaucoup plus en anglophonie qu'en francophonie. Donc, il faut veiller à ce qu'il y ait un juste équilibre, surtout pour les sportifs qui arrivent. Les panneaux, les signalisations, les discours, tout ce qui doit se passer doit se faire de façon bilingue, sinon trilingue, parce que maintenant, comme ça se passe au Brésil, il y aura naturellement le brésilien. Pour ce qui nous concerne, à savoir que le français soit présent, ce n'est pas une guerre, c'est juste le fait qu'on est quand même près de 300 millions à parler cette langue et qu'elle soit donc correctement représentée. Et ensuite, culturellement, le deuxième volet, donc en dehors de la langue, c'est le volet culturel. Par exemple, qu'une Canadienne chante avec un Congolais, que, voyez, c'est tout ce genre de mélange. Je suis chargé aussi de ce côté, donc, de ce volet culturel dans les Jeux, pour mettre donc, effectivement, la francophonie en exergue.
Ce dimanche, c'est la Journée internationale de la francophonie. Dans ce monde globalisé où la culture anglo-saxonne semble l'emporter, est-ce que la langue française est menacée, selon vous ?
Menacée forcément, mais elle est défendue. On n'a pas les bras croisés non plus, on est conscient de ça. Il y a une nécessité quand même, parce que c'est 2 points de vue qui sont du coup complémentaires. Ce n'est pas la guerre, c'est simplement qu'on réfléchit différemment pour arriver au même point. bon, l'idéal, la paix, la fraternité, tout ce que vous voulez, mais vu de notre point de vue, comment aborder les problèmes avec la jeunesse, avec les générations ambiantes, et puis dans cette morosité ambiante, comment donner la flamme, motiver les gens avec le fait que, ah, on est 300 millions, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est pas seulement le chiffre, c'est des chiffres qui parlent, avec des vrais projets.
Vous parliez des jeunes, l'Organisation internationale de la francophonie et les jeunes francophones lancent une mobilisation d'envergure autour de l'initiative Libre Ensemble. Mmh. C'est une initiative réalisée en partenariat avec TV5 Monde, avec le groupe France Média Monde, France 24, RFI et Monte Carlo Doualia, qui est d'abord un appel aux millions de jeunes francophones issus de 5 continents à se mobiliser massivement pour faire entendre leur voix et affirmer leur attachement au vivre ensemble, à la liberté et à la vie. Il y a un site internet, libreensemble.com, à utiliser sur tous les réseaux sociaux et à partager avec ses amis, ses réseaux, ses fans, ses followers.
C'est bien ce que je disais, hein, vous voyez. J'avais pas encore lu le projet, mais c'est bien ça. Il faut remercier énormément Madame Jean Michael, qui est donc à la tête secrétaire générale de la francophonie. C'est grâce à elle, d'ailleurs, que je suis là en tant que grand témoin, parce qu'il y a eu des illustres personnalités qui étaient là avant moi, mais il n'y avait pas encore eu un Africain, et puis qui plus est, un artiste. Donc c'est une première, et il faut lui donner mille merci, parce que c'est elle qui a vu cette histoire-là. Bon, il fallait naturellement aller au charbon parce que c'est un autre département, un autre domaine, c'est une autre façon d'aborder les choses qui m'est offerte.
Et puis la musique, on ne le répétera jamais assez, est véritablement un langage universel. Et avoir justement comme porte-parole un musicien, c'est plutôt une bonne initiative. Le 5 décembre dernier, vous étiez à l'Apollo de Harlem où vous participiez à une soirée intitulée « En français, je suis soul ». Il faut le rappeler. Comment êtes-vous perçu par les Américains comme un artiste français, camerounais, afro-planétaire?
Ouh, vous savez, j'ai joué la première fois à l'Apollo en 73. J'ai eu la chance d'avoir pu jouer, j'ai été le premier Africain d'ailleurs, sinon francophone, à jouer à l'Apollo, le temple de la musique soul des Américains, des Ray Charles, des James Brown, des Duke Ellington, des Count Basie, tout ce monde, Lionel Hampton. Quand vous arrivez d'ailleurs, vous voyez un mur avec les photos de tout ce monde-là, ça vous rend un peu humble.
Je peux l'imaginer.
Voilà. Et donc j'ai joué là, à cette époque-là, il n'y avait pas encore d'ailleurs de colonies africaines. Des Africains n'habitaient pas encore les États-Unis. Hein. La vague est venue après. Vous allez voir pourquoi je dis ça. C'est qu'il y avait des Noirs américains pour qui, Soul Makossa correspondait à leur vision de l'Afrique. À ce moment-là, Black is Beautiful, Back to the Roots et tout ça. Donc, il y avait le public noir américain et puis les Blancs. Et voilà que donc je rejoue la deuxième fois, plus de 40 ans après. C'est une émotion incroyable pour moi de découvrir à nouveau la 125e rue. Bon, c'est assez particulier. L'angoisse était, est-ce qu'on allait se rappeler de Manu et tout ça? Là, le public qu'on a eu, donc, il y a l'Afrique qui s'installe aux États-Unis. Il y a donc trois publics. Noirs américains, noirs africains et les blancs, et quelques chinois. Ce qui était intéressant, c'est que quand je jouais des morceaux à tendance beaucoup plus américaine, les Américains se levaient, les Africains les regardaient. Puis quand je jouais des morceaux typiquement africains,
c'était l'inverse.
Voilà. Et dans tout ça, les Blancs, eux, ils bougeaient des deux côtés, quoi. C'était très marrant. Je crois qu'il y a un film. C'est important de voir ça. Donc, il y avait une émotion particulière et une salle ultra pleine. Vraiment. Et voilà, je suis heureux donc d'avoir pu faire ça 40 ans après, tout de même.
Depuis le succès de Soul Makossa, vous avez une vraie notoriété américaine, mais plutôt que d'écouter cette mélodie universelle, nous avons ressorti de ce coffret, Merci Thank You, que vous nous présentez aujourd'hui, ce que je considère être les prémices de votre soul afro-américaine.
Oui.
Voici From Congo, nous sommes en 1969, 3 ans avant l'explosion de
exact.
Soul Makossa.
Thank you.
From Congo, Manu Dibango en 69, dans une humeur soul qui rappelle les disques Stax et Booker T and the MGs. Est-ce que c'est la musique qui vous avait inspiré à l'époque?
Oui, c'est parce que, en fait, j'étais organiste de Nino Ferrer. Dans l'un expliquant l'autre, et à l'époque, Nino adorait la soul musique. Nino, je voudrais être noir, enfin bon, il a son testament. Et il adorait les Booker T, il adorait les Otis Redding, d'ailleurs, tout ce monde-là. Et puis nous, du coup, aussi, parce que on jouait en dehors de chez Nino, on jouait dans une boîte qui s'appelait La Bohème à Montparnasse, hein, rue de Dessa, qui n'existe plus, où venaient tous ces artistes quand ils venaient en France, parce que la boîte, elle appartenait à la femme de Bud Powell.
Bud Powell.
Ouais, la femme de Bud Powell avait un club, donc à Montparnasse, et tous les gars venaient là, les Monk, les Errol Garner. Bah, c'était une époque d'or, franchement. Et quand on est jeune, à cette époque, on a l'impression que ce sera éternel, quoi. On a connu tout ce monde-là, que ce soit les Blancs, les Stan Getz, que ce soit les Noirs. Tout ce monde se mélangeait et on les découvrait ici. J'étais donc pas saxophoniste chez Nino, mais organiste. Et donc je me suis dit, tiens, puisqu'on m'a donné l'occasion d'enregistrer un disque, le premier disque pratiquement instrumental, j'ai fait du Manu, quoi, j'ai enregistré ce que j'aime. Et dans ce que j'aime, il y a effectivement des morceaux de Stax.
Motown, c'était la grande compagnie discographique du nord des États-Unis.
De Gordy.
Voilà, hein. De Berry Gordy, ouais. Voilà. Et les Stax, c'était plus
c'était
brut.
C'était beaucoup plus brut. Et en plus, il y avait un symbole, il y avait deux Blancs et deux Noirs.
C'est vrai.
À Memphis, là où il y avait un maximum de racisme, quoi. Tout ça, c'est historique en même temps que c'est artistique.
Dans ce coffret Merci Thank You, il y a différentes thématiques. La période Rasta avec ce titre est patent. Savachouya.
Ah ouais, ouais, ouais. C'est d'amener un peu à la Jamaïque, ce côté un peu méditerranéen des affaires, quoi. L'Afrique du Nord, joué par les Rastamans. C'était assez extraordinaire quand même. Slide on bar au Shakespeare. J'ai passé un mois merveilleux, hein. Franchement. On s'est découvert. La première semaine, on n'a rien fait, on a esquissé, enfin, fait tout ça. Et puis, la deuxième semaine, le pianiste dit « René, passe !» On a tracé pour un disque, non, pour deux. Et j'étais parti pour un album, on a fait deux albums, tellement le feeling était là, quoi, entre nous, vraiment.
Il y a des œuvres gospel aussi sur cette compilation.
Oui, ça c'est mon côté protestant, en fait.
Exactement. Avec une adaptation du classique des Hawkins Singers, O Happy Day.
Ouais.
Et puis, il y a les musiques de films, avec notamment La Colère des Dieux, de Idrissa Ouédraogo.
C'est ça.
En tout cas, ce coffret permet de découvrir votre diversité, parce que vous avez vraiment évolué dans différentes disciplines, différents contextes. La question que je vais vous poser maintenant est un peu périlleuse.
Oui.
Mais dans quelle discipline vous exprimez-vous le mieux? La composition, les adaptations, la direction d'orchestre, les sessions de studio, la scène?
Non, mais c'est la chance de pouvoir s'exprimer de cette façon-là, quoi. La diversité, dans ce cas-là, n'est pas nuisible. Au contraire, c'est complémentaire, quoi. Ça peut ouvrir, si vous avez le volet arrangeur. Il faut l'avoir en soi. Il y a des gens qui sont que solistes, il y a des gens qui sont que compositeurs, il y a des gens qui sont que auteurs. Pour ce qui me concerne, tout ça, ce n'est pas séparé. À moi d'en faire un arrangement, finalement, lisible pour les gens, quoi. Et puis de mettre tout ça ensemble et de valoriser au bout la musique. Mmh. C'est ça l'histoire, c'est la finalité, la fin du film, c'est la musique, quoi.
Il est en tout cas incroyable de penser que ce quintuple album que vous nous présentez aujourd'hui n'est qu'un premier volume. Mmh. Cela veut dire qu'il y aura encore beaucoup d'archives qui ne demandent qu'à être revitalisées. Vous savez déjà ce qu'on découvrira sur le volume 2?
Oh, ben, ce sera des surprises, forcément, puisque ce sont des choses qui sont pas toujours sorties. S'il y a un mélange, mais encore, on a, Claire et moi, on a passé peut-être 2 ans et demi à rassembler, et puis c'est pas fini. Il y a encore des gens qui me donnent des trucs de grand-père, quand je vais en Afrique, il y a toujours quelqu'un qui sait que, tiens, Manu, on a un truc que tu as fait à Abidjan. Le générique de la radio ivoirienne, en 60, c'est moi qui l'avais fait.
Incroyable.
Voilà, des choses comme ça, on ne sait pas.
Il y aurait tant d'enregistrements à mettre à nouveau en valeur que vous pourriez faire 10 anthologies, Manu Dibango.
Il y a au moins 800 morceaux répertoriés à l'Assassin. Là, il y a 80 morceaux.
Oui, donc c'est 10%. Voilà.
C'est pas loin des 10 que vous dites là.
Quoi qu'il en soit, nous allons nous quitter avec un autre de vos grands succès, Big Blow, en 1976, il y a donc 40 ans.
Voilà.
Manu Dibango en 76 sur l'album Afrovision et sur le coffret Merci Thank You que nous recommandons chaudement. Je rappelle que vous serez dès le mois d'avril à nouveau sur la route. On vous verra en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, au Ronnie Scott Club de Londres les 21, 22, 23 avril. Ouais, j'imagine.
C'est le club pour un musicien, c'est vraiment le rêve.
Où tous les plus grands jazzmen sont passés d'ailleurs. Vous serez de retour en France à Bobigny le 30 avril, puis à Florange, Le Havre, Aix-en-Provence. Et j'ai ouï dire qu'une grosse date parisienne se préparait pour la rentrée 2016.
Oui, on a le temps. C'est en octobre ou en novembre.
Je crois que c'est en octobre.
C'est ça, t'en sais plus que moi. Mais je sais que, voilà, j'aurais plaisir de jouer là. J'ai déjà joué là en invité, mais pas en tant que Manu, quoi. Je connais la Cigale, pour ne pas citer. Je connais le coin, mais ce sera la première fois que je vais jouer là-dedans.
Donc ça sera précisément, puisque si les informations sont justes, le 15 octobre à la Cigale, donc à Paris. Sans oublier votre présence au JO de Rio cet été en qualité de grand témoin de la francophonie. Ouais. Et j'allais omettre de vous poser une dernière question. Des rumeurs insistantes évoquent un projet avec Relema. Est-ce que vous confirmez ?
Oui, il y en a un déjà qui va sortir là. Nous étions à Abidjan il y a quelque temps pour le Massa.
Le marché des arts et du spectacle africain.
Important, très important, parce que en ce moment c'est rué vers l'Afrique. Il y a tout le monde y va. Ce serait bien que les Africains y aillent aussi, tu vois. Et ce marché-là, ça fait partie de ça. Et donc on s'est retrouvé là et il m'a présenté le disque qui va sortir, son disque, son nouveau disque avec le quintet avec Étienne Mbappé, où j'étais en featuring au marimba. Le disque est très beau, les arrangements, en fait, du Relema comme on aime.
Grand personnage.
Oui, c'est un monsieur. Voilà.
C'est un monsieur.
Il n'y en a pas beaucoup que j'appelle monsieur, mais lui, oui.
On attend donc cet album avec impatience. Quelle vie trépidante vous avez, Manu Dibango. Mais c'est mérité, hein. C'est mérité. La généreuse Nathalie Laporte réalisait cette épopée enthousiasmante. La semaine prochaine, nous ferons l'écho d'un festival qui se tient à Beauvais, à 1h30 de Paris. Il s'agit de Blues sur le Zing. Je ne sais pas si vous avez déjà joué là-bas.
Non.
Qui se déroule donc jusqu'au 26 mars avec notamment Blik Bassi, le jeune Camerounais.
Ah oui, je le connais. Ma case.
Exactement. Fada Freddy, qui faisait partie de Daraji.
Oui.
Et puis encore Betty Lavette, la chanteuse de soul américaine, qui sera d'ailleurs notre invitée. Passez une bonne semaine. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, que ça a été un plaisir de à nouveau. Hein, de, régulièrement, on fait le point quand même.
Finalement, on a dit l'essentiel cette fois-ci.
Voilà, Nathalie, merci.
Merci, Manu Dibango.
Merci à toi.
Et puis à la prochaine fois.
Yes.
Oui. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours. Dans 30 secondes, le journal.
Pour la première fois, Livre Paris met à l'honneur l'Afrique à travers Brazzaville.